9. Le combat de l'immortel. À ces mots, le duc attaqua alors et Arnoux l'attendit bien et hardiment. Comme ils arrivaient au corps à corps, le duc s'abaissa et voulut faire volter son cheval. Mais Arnoux tenait une dague à la main et visa pour frapper le duc dans l'œillère du haume. Mais le duc s'abaissa et détourna le coup, et puis battit en retraite. L'anonyme de Béthune. Les deux poisons qui venaient de m'embaucher n'avaient pas tort sur un point. Rien de mieux qu'une bataille pour maquiller une exécution. Mais voilà bien le seul avantage fourni par la foigne. Pour le reste, quel contrat pourri. Le béaba de l'assassinat, c'est la surprise. Un bon tueur frappe à l'improviste. Une affaire bien menée est terminée en un claquement de doigts. Dans l'idéal, même la victime n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Tout repose sur le repérage, le sang-froid et l'habileté. La sûreté de la décision et du geste importe plus que la force. Il faut connaître les habitudes du client, tromper ou acheter ses proches, frapper à point quand la cible s'y attend le moins. Tout le contraire d'une action menée au cœur d'une mêlée, quand le gibier est en garde, armé jusqu'aux dents et prêt à fendre la coquetière de tous ceux qui ne lui reviennent pas. En d'autres termes, si je voulais vraiment refroidir le veau Macel, j'avais intérêt à revoir ma méthode. De toute façon, il fallait d'abord le loger, le chevalier, et puis ensuite réussir à l'approcher. Un tournoi, qu'il disait. Tu parles. Une putain de bataille rangée, oui. On a beau être au parfum, s'attendre à ce que la noblesse se présente avec le petit personnel en renfort pour faire du nombre, c'est une chose de le savoir. C'en est une autre de se retrouver au milieu de la cohue. Chevaliers et écuyers assemblés, il fallait bien compter une centaine de champions montés dans chaque camp. Ajoutez-y 4 ou 5 fois plus de gens de pied, et c'est un bon millier de combattants qui allaient se mettre courtoisement sur la gueule. Allez-y pour trouver votre client au milieu de ce troupeau. Et puis une fois repéré, faute d'arbalète, pas moyen de faire autrement que de le travailler au corps. Au milieu du déluge, il s'agirait donc de passer entre les coups, y compris ceux que vous allongerez galamment votre cible. Et quand enfin on toucherait au but, l'affaire resterait compliquée. Pas simple de suriner un bonhomme caparaçonné de pied en cap. Pour ajouter un peu de piment au rata, le chevalier combattait chevaleresquement à cheval. Et moi, je trimais dans la piétaille. Je risquais d'en offrir une belle de comédie, à cavaler derrière mon cavalier. Certes, j'avais de la bouteille, je n'en étais pas à mon coup d'essai et j'avais naguère expédié quelques affaires plutôt ficelles, comme la sauterie du palais Mastigia, tiens. Malgré tout, ce contrat-là marquait mal. En fait, j'avais la quasi-certitude que Clarissima me mettait à dessein dans la panade. En me poussant à m'exposer, elle me jetait dans un sacré guépier. Sûr qu'elle en verserait des larmes de joie si par hasard c'était mon carafon qui se faisait décerveler. Je l'imaginais très bien dans l'oratoire ducal, ma gentille petite altesse, pieusement agenouillée avec la mantille sur le nez en train de promettre une donation splendide au resplendissant, si Edan de Vaumacel et Benvenuto de Gesufal avaient le bon goût de s'entretuer sur le pré. Et pourtant, pas moyen d'y couper. La garce avait raison sur un point. Le patron m'avait envoyé pour aplanir ce genre de difficultés et j'avais une réputation à tenir, tant au palais Ducatore que dans les coupes-gorges de la guilde. Mégoter sur les risques aurait laissé entendre que ma main commençait à trembler. Trop dangereux. Vaumacel devait crever. Je n'avais choisi ni mon lieu ni mon heure, mais tant pis. Il faudrait faire avec. Quand même, quelle chierie ce tournoi! D'abord, à part l'ami Bonito Skeggia que je gardais à l'œil au cas où, je ne connaissais personne dans la soldatesque où je me retrouvais. Au moins, c'était des gars solides, des sergents du banc de Traval, l'infanterie féodale du connétable. Ces durs à cuire avaient l'habitude d'en découdre avec les pillards au roman, et ça leur faisait manifestement plaisir d'aller cogner pour rire les gros bras de Kimark. N'empêche que Skeggia et moi, avec nos armes tchoudaliennes, on nous regardait un peu comme les deux vilains petits canards. J'aurais nettement préféré me retrouver dans l'aile commandée par Fitzganon, pour combattre au coude à coude avec mon copain Sigarde et ses brutes des Orsines. Mais le duc avait voulu faire honneur à Cesarino en lui réservant une place dans la bataille centrale, sous le commandement direct du connétable. Et il avait bien fallu suivre le Patrice. Suivre le Patrice. Et même le précéder. Tant que l'affaire n'était pas engagée, la cavalerie se tint en retrait, couverte par son infanterie. Ce qui fait que Skeggia et moi, dès le départ, on se retrouva en première ligne. En soi, ça ne me dérangeait pas. Dans la phalange, déjà, c'était mon poste. Et même amolli par la vie de palais, je conservais la tête froide face au front ennemi. Non, ce qui me gênait davantage, c'est qu'on se trouvait disposé n'importe comment. Dans la phalange, les enseignes s'échelonnent en échiquier pour rompre les charges adverses. Les arbalétriers forment la première ligne, puis se réfugient au second rang, derrière les taillis de pique quand les armées s'accrochent. À Lindinas, rien d'aussi carré. Rien de carré du tout, d'ailleurs. Les bandes de gens de pied formaient le cercle autour des escadrons de cavalerie en attendant que les nobles seigneurs daignent sortir du rang pour se donner en spectacle. Concrètement, pour commencer, la chevalerie se rassembla donc dans notre dos. Moyennement confortable de sentir tous ces gros destriers bardés d'acier, prêts à nous tomber sur le rabble si les preux chargeaient sans prévenir. On campa un bon moment sur nos positions, le temps que se déploient les troupes. Et puis qu'on s'observe à loisir en se huchant des mots doux à travers la prairie. Les deux parties avaient adopté à peu près la même disposition. Ceux d'en face s'étaient quand même adossés à la pommeraie qui bordait le château. Visiblement, ils comptaient utiliser le verger comme refuge contre les charges de cavalerie, ce qui signifiait qu'une bonne tranche de la fête serait un combat d'infanterie. Car les règles étaient claires. Le camp du dedans l'emporterait si, à la fin de la journée, il tenait toujours l'entrée de la place forte. Il avait donc l'avantage de la défense. Et si le camp du dehors voulait donner la victoire au couple ducal, il faudrait bien porter le fer sous ses arbres en fleurs et sous ce rempart. À nous l'honneur de donner l'assaut, ce qui signifiait qu'on serait bien forcé de renverser ces gros escadrons cuirassés et de percer le buisson de lance des gens de pied adverse. Une vraie partie de plaisir. D'ailleurs, le connétable de Traval n'avait pas l'air pressé d'ouvrir le bal. On avait encore la journée devant nous. Des fois que ceux d'en face auraient eu l'amabilité de venir nous chercher, ça nous aurait épargné de la route. Mais les bandes du dedans, commandées par Claudas de Quimarc et le jeune Blancandin, nous aguichaient de loin sans faire le premier pas. Ça donnait le temps d'admirer le spectacle, avant que tous ces équipements splendides ne se retrouvent salopés. Ça portait aussi sur les nerfs. Sans doute les capitaines des deux parties misaient-ils sur l'impatience adverse pour saisir une ouverture. En fait d'ouverture, on eut d'abord droit à un prêche. Sorti d'on ne sait où, un prêtre du desséché vint occuper le terrain libre entre les deux armées. Ce pouilladin illuminé eut le culot de nous faire la morale, le verbe haut et le geste accusateur. Je n'entendis pas grand-chose du sermon, parce qu'un bon milieu de pieux guerriers se mirent à l'invectiver et le huer. En plus, je n'ai jamais eu beaucoup de dévotion pour ce culte macabre. Les dessicatoriens sont un mal nécessaire, car il faut bien se débarrasser des corps, mais ils ont un peu trop tendance à fouiller dans les suaires et à y dénicher des histoires embarrassantes. Compte tenu de mon fonds de commerce, je ne suis jamais tout à fait tranquille en leur présence. Je n'étais pas mécontent que les braillés martiales m'aident à faire la sourde oreille. Bien sûr, avec le recul, je réalise que ce fut la première erreur de ma part. Aurais-je prêté plus d'attention aux imprécations du Frocard? Est-ce que cela aurait changé grand-chose? Allez savoir. Je veux me persuader du contraire. N'empêche, j'aurais peut-être soupçonné que l'énorme cloaque où je m'apprêtais à plonger ne refoulait pas seulement des histoires de haine familiale, de gros sous et de terres contestées. Au lieu de cela, je continuais à ratisser des yeux les lignes adverses et je venais d'y faire une découverte intéressante. Il me semblait bien avoir repéré le chevalier de Vaumacel. La veille, j'avais pu l'observer à loisir en train de bousculer la bande du grand bâtard, et ses armoiries étaient assez simples à identifier. blanche avec quelques épines disposées en un cercle irrégulier. Dans le centre adverse, il y avait deux chevaliers dont les cottes d'armes étaient claires. L'un d'eux avait l'écu et le pennon marqués de chevaux courants. Il s'agissait donc de Clodas de Quimarc. L'autre portait sur le bouclier des meubles si petits qu'ils étaient indistincts à pareille distance. Mais l'allure générale de l'armure et du cheval me paraissait familière. Sacré coup de chance. Nous étions nous-mêmes postés au centre du dispositif du camp ducal. Si le preux que j'avais remarqué était bien Vaumacel, au moins je n'aurais pas à traverser une grande partie du champ de bataille pour le débusquer dans une aile. Pendant que je scrutais mon homme pour essayer de me fixer définitivement sur son identité, les sifflets et les quolibets soulevés par la prédication du calotin se mêlèrent soudain de rires et de vivats. Bientôt, une franche gaieté roula parmi les rangs des gens de guerre. Disputant la vedette au ratichon, une poignée de bouffons venait s'ébattre sur le pré. Armés de balais, casqués d'un entonnoir et d'une marmite, les loustiques singeaient une joute en éperonnant des imbéciles houssés comme des bidets. Je manquais de me décrocher la mâchoire en les reconnaissant. Erin, Main d'Argent et Mère Folle livraient ce combat burlesque. Ces foutriquets se payaient la tête de toute la bonne noblesse de Quimarc et de Bromel. Et la bonne noblesse avait la politesse de s'esclaffer. Le triomphe des pitres fut complet quand ils eurent la plaisante idée de se poursuivre autour du prêtre. Vexé, le corbeau ravala ses adjurations et quitta la scène, non sans bousculer Mère Folle et sa haridelle brinque-ballante. Le nain roula dans le cresson sous les acclamations de la troupe. Porté par la gaieté et la nervosité collective, je me gondolais comme les autres, avec en plus une pointe de tendresse pour le nabot. En même temps, je me félicitais d'avoir fait faux bond à la compagnie folle la veille. Dans quelle paillasserie ces gugus auraient été capables de m'entraîner? Déjà que mon crédit était mince à la cour ducale, cela aurait signé ma damnation mondaine. Et encore, j'aurais été menacé par un péril plus effroyable. Le grand-duc des Sacripants aurait pu, grâce à mon entregent, rencontrer le sénateur Skernitore. J'avais la quasi-certitude que ces deux-là se seraient entendus comme larrons en foire. Leur association m'aurait aspiré dans un maelstrom bambochard qui aurait ruiné ma réputation jusque dans les hautes sphères de la République. Car malgré leurs blagues potaches et leurs goûts douteux, les drôles de la compagnie folle exerçaient une dangereuse séduction. Ils avaient failli provoquer ma perte à Bourpreux. Ils avaient réussi l'exploit de se faire embaucher par le comte de Quimarc. Et voici qu'ils attiraient sur le pré un champion du camp du Dedans. Sorti des rangs de la bande de Blancandin, un preux magnifique s'avançait à la rencontre d'Erin. C'était un inconnu que, bizarrement, tout le monde remit d'une certaine façon, puisqu'il s'était illustré la veille sur le pré avec Vaumacel. Son écu était orné de deux pies têtes bêches aux ailes coudées. Les héros d'armes, faute de connaître son nom et son lignage, l'avaient donc surnommé le chevalier aux pies. Le pas dansant de son coursier, l'armure aux étranges reflets bleutés, la cotte d'armes de soie si délicatement brodée qu'elle chatoyait comme un plumage, lui donnait une classe folle. Son avancée à découvert souleva un grondement hostile dans nos lignes, mais ça n'empêchait pas d'admirer son élégance, dont il avait montré qu'elle habillait un vrai talent pour la castagne. Lorsqu'il arriva à hauteur du grand-duc des Sacripants, le chevalier aux pies lui adressa quelques mots et tous deux se serrèrent l'avant-bras droit. Un tableau farfelu. Le preux, fastueusement cuirassé, dominait du haut de son destrier le batteleur juché sur des plaisantins costumés en bourrin. Et pourtant, il y avait je ne sais quoi d'émouvant dans les salutations du paladin à l'histrion. Peut-être parce qu'Erin avait été mon ami, je saisis soudain ce qui échappait aux autres spectateurs. Le chevalier aux pies et le grand-duc des Sacripants ne formaient pas seulement l'avers et le revers burlesque de la prouesse. Au-delà de leur grotesque mimétisme, ils possédaient bien quelque chose en commun. Ils dégageaient la même grâce. Un tour d'elfe. Cela me sautait tout à coup aux yeux. Le chevalier aux pies ne venait pas du duché. Comme Erin, il était sans doute originaire des cinq vallées. Cette révélation loin de m'émerveiller, me donna un mauvais pressentiment. À leur manière, je trouvais déjà Erin et Annoette délicieusement nuisibles. Du moins, prétendaient-ils seulement amuser la galerie. Mais des elfes combattants dans le camp adverse, c'était une entourloupe qui changeait sacrément la donne. De quoi se mêlaient-ils? Qu'est-ce qu'ils étaient venus trafiquer en Bromel? Ce vieux routier de Kimark dissimulait-il d'autres cartes truquées dans sa manche? Comme pour me confirmer dans mes prémonitions funestes, les premières gouttes d'une averse se mirent à teinter sur les casques. Au même moment, trois cavaliers surgirent de nos rangs. Jaillit l'épée au clair de la bande du Grand Bâtard, je reconnus des champions vaincus la veille et rachetés depuis lors par le duc. Sans aucune vergogne, ils saisissaient l'occasion de prendre leur revanche. Ils allaient faire payer son imprudence à l'étourdi au pis. L'autre ne se démonta pas pour autant. Tirant la lame hors du fourreau, il leur offrit tranquillement le combat. Cette témérité souleva de gros rires chez mes compagnons, qui s'attendaient à un éreintage en règle. Mais moi, je n'avais pas le cœur à me bidonner. Je me souvenais d'Erin, inoffensif certes, mais intouchable au milieu des pires rixes d'auberge. Et je me dis que l'assurance de cet inconnu oiselé ne devait peut-être rien à l'arrogance. Pourtant, enveloppé par ses trois adversaires, le chevalier Opi parut tout de suite mal engagé. Mais c'était sans compter l'effronterie d'Erin. Alors que ses comparses avaient fui l'escarmouche en catastrophe, le grand-duc des Sacripants était resté fièrement sur le pré et avait menacé les champions du dehors d'une brosse de dos. Et puis, faisant mine de se jeter dans la mêlée, il surprit l'un des preux, lui saisissant une jambe à l'improviste, il lui fit vider les étriers, bondit en selle, dans le même mouvement, et s'enfuit avec le destrier. Le tour laissa d'abord sans voix les deux armées. Puis la scénette vira au comique quand le combattant désarçonné tenta de poursuivre son voleur qui prenait le large au galop. Le tableau était d'autant plus grotesque que le grand-duc des Sacripants, ayant lâché les rênes, poussait des cris de pucelle effarouchée. Je ne reconnaissais que trop le talent du gredin pour souffler sur des braises. Ce ne fut qu'arrivé près de la barrière du camp de Kimark que l'impertinent, ayant sauté à terre, se fendit de grands saluts d'acteurs avant de disparaître au milieu des tentes. Tout cela empestait plus que jamais le tour d'elfe. Non seulement je nourrissais l'inquiétude fort raisonnable de me faire écharper dans la mêlée, mais ces momeries y ajoutaient une pincée d'appréhension farcesque. J'avais raison de me méfier. Les trublions avaient effectivement faussé la rencontre. Et pourtant, malgré ma défiance, le coup fourré allait quand même me prendre à l'improviste. Il devait me plonger dans la mouise jusqu'aux yeux. En fait, par une malheureuse série de ricochets, il éclaboussa tout le duché et finit même par se retourner contre les bouts en train qui l'avaient combiné. Mais je vais un peu vite en besogne. Revenons à nos paladins. Du côté de l'escarmouche, l'affaire était en train de dégénérer. Toujours en situation délicate, le chevalier Opi fut soudain secouru par un de ses compagnons d'armes, et le combat parut se rééquilibrer. Sur l'aile gauche de nos troupes, le grand bâtard s'en chagrina et fit avancer sa chevalerie devant les Ouarmans. En face, sur l'aile droite du dedans, ce fut la cavalerie de Blancandin qui passa devant ses gens de pied. C'était le début de l'escalade. Tous ses grands seigneurs et ses pro-champions brûlaient d'en découdre. Ils avaient déjà trop attendu, et Fitzganlon, qui avait une humiliation à effacer, n'était pas du genre à prendre son mal en patience. Les hommes piaffaient autant que les chevaux. Il ne fallut pas longtemps pour que l'ordre de charger ébranle les deux escadrons l'un vers l'autre. L'explication qui, pour le moment, ne concernait que notre aile gauche, ne nous aspirait pas encore dans une mêlée générale, mais rien qu'à entendre les cris de guerre, voir se mouvoir les masses compactes des conrois et sentir le sol trembler sous les sabots, il y avait de quoi attraper la colique. C'était vraiment une fête à terminer complètement raide. Le choc entre les deux cavaleries craqua de façon terrible. J'avais beau avoir couvert mon crâne sous la barbute, dont le timbre d'acier étouffait un peu les sons, j'eus pourtant l'impression d'être assourdi par la collision. Fracas des lances brisées, des écus fendus, hennissements, rugissements guerriers. Tintamarre de lames et de tôles, croulement d'hommes et de chevaux, ce vacarme nous cinglait en bourrasque et traversait l'armure jusqu'à nous chatouiller les viscères. Il en résulta une sorte d'émeute tumultueuse, absolument illisible, où tanguaient boucliers, chanfreins, blasons et cimiers, le tout hérissé d'épées et de haches brandies si furieusement qu'il fallait avoir un sacré sens de l'humour pour les qualifier de courtoises. Pendant un moment, aucun avantage ne parut se dessiner. Et puis, une rumeur joyeuse se mit à courir dans nos rangs. « Blancandin est pris ! Blancandin est pris !» Autour de moi, les sergents montraient de la lance ou du gantelet un petit groupe de cavaliers en train de s'extraire de la mêlée. L'un d'entre eux était le grand bâtard. Appuyé par quelques compagnons, il entraînait effectivement le jeune Brommel, reconnaissable à ses armoiries qui associaient les couleurs ducales à celles de sa mère répudiée. Mais ils ne purent regagner nos lignes. Perçant hors de la mêlée, deux chevaliers du dedans se ruèrent à la rescousse de leur jeune capitaine. Je ne fus guère surpris de distinguer le bêcheur au pis, toujours en selle et plus fringant que jamais. Je fus plus étonné de reconnaître ce faucheton de Kéan, le prétendu servant de la baronne de Brégor qui, loin de trahir le camp d'en face, revenait en découdre avec Fitzganlon. La pluie se fit plus drue, brouillant un peu les chauffourées. Mais il m'apparut quand même que ce renfort permit à Blancandin d'échapper à ses ravisseurs. Le grand bâtard qui se cognait comme plâtre avec cet enquiquineur de Kéan fut incapable de retenir sa prise. Alors, sans cesser d'insulter son adversaire, il se mit à brailler des ordres. À l'arrière, frémissant d'excitation, les clans ouromans se mirent en marche. En face, dans le jour voilé par l'ondée, on vit la chevalerie adverse coiffer le haume. Cela me facilita les choses pour repérer le veau Massel. Son casque était orné par un cimier en forme de ronce. Derrière nous, on entendit aussi notre cavalerie se préparer. C'était le moment de serrer les fesses. Le grand jeu allait nous rattraper. Cependant, un coup des pattes nous valut encore un étrange sursis. Sur l'aile droite du dedans, un seul cavalier était resté en réserve, comme pour commander l'infanterie. Je n'avais pas spécialement fait attention à ce retardataire. Il faisait un peu cloche, comme oublié au milieu de la piétaille. Et puis, avec la pluie, on le distinguait de moins en moins. Or, au moment où les barbares entrèrent en lice, il se mit également en mouvement. Il partit sans se presser, la lance haute, fendit les rangs des sergents d'armes sans les entraîner, et pourtant il capta tous les regards. Dans l'atmosphère pluvieuse qui s'assombrissait d'instant en instant, il semblait baigné par un scintillement d'éclaircies. Les couleurs de son écu et de sa cotte d'armes chatoyèrent, un miroitement bleuté brillanta son armure, tandis que l'allure de son destrier lui conférait la prestance d'un roi. Il s'avança solitaire, plein de superbe, et je dois avouer que je n'étais pas mécontent qu'il se soit trouvé assez loin sur ma gauche, parce que sa pavane avait une inexplicable tournure d'invincibilité. Je fus loin d'être le seul à me trouver interdit par le coup d'esbrouf. Ce maintien conquérant ouvrit une voie au paradeur à travers la mêlée. Il franchit les combats sans dévier ni recevoir une pichenette. Émergeant de l'abattage, le hautain personnage eut la témérité de s'opposer à la horde des mercenaires. Et spectacle incroyable, la masse énorme des barbares fut prise de timidité. Cet invraisemblable tableau ne dura qu'un instant. Venu de l'arrière des ouromans, un rire juvénile et dur rompit le charme. Presque aussitôt, un cavalier bouscula les soudards pour assaillir le stupéfiant poseur. Celui-ci baissa la lance afin de recevoir la charge et perdit aussitôt une grande partie de sa majesté. J'eus l'impression de dessiller. Je repris mon souffle. Je me rendis compte que je n'étais pas le seul à m'ébrouer. Autour de moi, ce gredin de Skeggia, comme les solides sergents d'armes de Traval, recouvrait leurs esprits. Au milieu des mercenaires qui repartaient à l'assaut, deux preux incroyablement distingués se livraient une joute qui tenait plus du carrousel que de la baston. Je crachai quelques jurons. Encore un tour d'elfe. Ces gommeux se payaient notre tête aussi outrageusement que le grand-duc des Sacripants. mais je n'eus pas le loisir de spéculer sur ce qu'il trafiquait au milieu de ce tournoi. En s'abattant dans la mêlée, les brutes de Sigarde et de ses comparses firent plier la chevalerie de Blancandin. Cela précipita la suite des événements. Sauf à sacrifier son aile droite, le camp du dedans ne pouvait plus rester sur la défensive. Au centre et sur l'aile gauche, la chevalerie de Kimark se mit en marche pour offrir le combat. Derrière nous, le connétable de Traval donna l'ordre d'entrer en lice. Aussitôt, l'infanterie rompit la ligne pour se former en colonne par quatre, ce qui permit à la cavalerie de nous dépasser. Heureusement qu'on suivit aussitôt le mouvement, Skidjia et moi, parce que les orgueilleux seigneurs ne se seraient pas gênés pour nous fouler aux pieds de leurs destriers. Le seul fait d'être frôlé par les caparaçons des chevaux et les grèves d'acier des cavaliers suffisait à vous mettre du plomb dans le crâne. À la première défaillance sur le pré, le simple piéton terminerait écrabouillé. Une fois devant nous, les preux se déployèrent sur deux rangs. Les chevaliers en première ligne, les écuyers en soutien. À eux l'honneur d'ouvrir le bal. Maigre consolation, à vrai dire. Quand l'infanterie entrerait dans la danse, elle devrait marcher au milieu du crottin, des armes rompues et des premiers corps renversés. Un terrain accidenté et fangeux, pas idéal pour conserver une formation serrée. C'était d'ailleurs en prévoyant ce champ bouleversé que j'avais opté pour des armes assez courtes. À quoi bon m'encombrer d'une pique si la troupe ne formait pas un hérisson bien régulier? Et puis de toute façon, les armes longues sont efficaces pour tenir en respect et pour blesser sans être touché. Mais dès lors qu'il faut frapper au défaut de l'armure, rien ne vaut une solide dague. Je m'étais donc équipé pour l'étripade. N'empêche que j'avais l'air un peu couillon avec mon archegaille courtaude comme un épieu, un maligné à côté de Gaillard maniant des guisarmes longues de près de deux toises. Peu importait. On aurait rapidement la tête occupée à autre chose qu'à comparer la taille de nos engins. Devant nous, la chevalerie partit d'abord doucement, comme par prévenance pour la valtaille qui suivait à pince. Et puis la gentilhommerie s'enflamma, hurla ses cris de guerre et piqua des deux en semant la piétaille qui lambinait pour rester en ordre. « Bromel, Bromel !» gueulaient des voix caverneuses sous le haume, tandis que montait d'en face une clameur aussi farouche. « Honneur, honneur à Odéharde !» Ce qui nouait toutefois l'aiguillette bien plus que ses vociférations, c'était le tremblement du sol sous la charge des escadrons. N'empêche, le plus fâcheux de l'affaire, c'était bel et bien de rester en troisième ligne. Devant nous, on ne voyait que des fers à cheval, des culs de canasson et des dos cuirassés. On pressentit le choc en voyant les lances s'abaisser, tandis que les cavaliers s'arc-boutaient sur les étriers et l'arçon, mais pas moyen de distinguer l'ennemi derrière cette muraille équestre. En plus, la pluie n'arrangeait rien. Non seulement le terrain retourné par les sabots se faisait lourd, mais l'eau commençait à dégouliner sur le bord de ma visière. Déjà que la trouille a tendance à vous étrécir les mirettes, là j'avais carrément l'impression de devenir bigleux. De toute façon, même les yeux fermés, j'aurais été secoué par l'impact des deux cavaleries. Un vrai mur de tumulte nous heurta quand les chevaliers des deux bords s'emboutirent. D'un seul coup, l'escadron devant nous se disloqua comme s'il venait de buter dans une barrière. Des débris de lance fusèrent allègrement dans les airs, au-dessus des cimiers ballottés dans tous les sens. Les destriers dérapaient, trébuchaient, se cabraient. Les cavaliers poussaient, glissaient, se rétablissaient ou chutaient. Les cris stridents des chevaux, les beuglements furieux des combattants, l'énorme chaos qui nous barrait la voie, donnaient le sentiment de déboucher au seuil d'un pandémonium. « Quel bazar !» me disais-je pour maintenir l'allure en gardant la frousse à distance. « Quelle façon débile de faire la guerre ! Aller tenir une ligne avec ses chevaux emballés et ce front disjoint ! Impossible de serrer le rang !» Ces doctes considérations ne firent que me traverser l'esprit, car malgré la pluie, j'entrevis quelque chose qui me jeta aussi sec dans d'autres alarmes. Au milieu de la bousculade, entre un écu bariolé et une spalière d'acier, je crus apercevoir la dégringolade d'une armure noire toute niellée de figures d'or. La vision fut fugace, à peine le temps de cligner les yeux, puis l'énorme pêle-mêle d'armes, de bardes, de couleurs et de chevaux se referma sur le théâtre de la chute. Mais ce fut suffisant pour que je comprenne le péril. Bordel de merde! Cesarino est à terre. Je n'en fis ni une ni deux. Ce cornio de Don Benvenuto, avec ses principes tactiques, fut le premier à rompre le rang pour se ruer dans le foutoir. N'allez pas croire que je me suis mis dans cette panade par grandeur d'âme ou amitié. D'accord, je l'avais plutôt à la bonne, le gentil Patrice. Mais c'était lui qui avait décidé de jouer au héros comme un grand. Et je ne suis pas du genre à tenir les petits garçons par la main. Chacun pour soi. Le souci, c'est que Cesarino était le neveu du Podesta. Si le fringant ambassadeur s'était fait capturer, la demande de rançon serait remontée à coup sûr jusqu'au patron. Et le patron, il m'aurait forcément demandé des comptes. Ne parlons pas de malheur. En plus, Cesarino aurait pu se faire estropier ou refroidir dans l'affaire. Bref, ce qui me poussa au milieu du grabuge relevait d'un motif autrement impérieux que la générosité ou le courage. Avant tout, il s'agissait de sauver ma gueule. Par chance, Bonito Skeggia mit ses pas dans les miens. Pourtant, il n'était pas au service de la famille Ducatore, et j'aurais mis ma main au feu que, pas plus que moi, l'altruisme ne l'étouffait. Mais il envisageait sans doute de se louer dans une bonne maison une fois Diletino complètement essoré. Bref, il fournissait une prestation gracieuse pour attirer le chaland. Et je dois avouer que ce geste commercial tombait à point. Parce que tous les deux, on ne se jetait pas dans la gueule du loup, mais plutôt dans un machin encore pire, genre centauromachie déchaînée. Il fallut se faufiler entre les bêtes énormes, risquer l'aplatissement entre les caparaçons ou le coup de sabot de 5 quintaux, esquiver accessoirement quelques fers de lance et des moulinets à décorner les bœufs. Une 30aine de pas à peu près nous séparait de la dégringolade du Patrice. Comme ça, sur le vélin, ça n'a l'air de rien. Mais j'aurais voulu vous y voir au milieu de la sarabande. Plongé dans cette écurie furieuse, on n'y voyait plus à 3 pieds, à part un sabbat de housses brodées, de bardes métalliques, d'éperons et de jambières de plate, sans parler des mottes de boue arrachées et de temps en temps une joyeuse giclée de sang. Au bout de 15 foulées, on attrapait le souffle court. La demi-armure, ça reste une demi-armure. Au repos, ça se supporte assez facilement, on se sent capitonné là-dedans comme dans une chaude pelisse d'hiver, mais quand il faut courir et faire des entrechats, alors là, on se met à le sentir. Le fait cumulé du buffle matelassé, du plastron, des spalières, des brassards articulés et des gantelets. Et le pire, ça reste encore ce putain de casque qui vous rétrécit le champ de vision et vous pèse sur l'occiput comme un âne crevé. Un des bénéfices du combat en ligne, c'est de manœuvrer posément, à l'économie, sans trop pomper sur les poumons et le cœur. Mais quand on sort du rang et qu'on la joue perso, alors là, on ne lésine plus sur la dépense. C'est table ouverte. On crache son coffre aussi prodigue qu'un tonneau débondé. C'est peu dire qu'on se mit en 4 pour le ramasser, le Patrice Razicari. Et il nous dut une fière chandelle, le gentillâtre, parce qu'il était dans la mouscaille jusqu'au cou. Quand on parvint jusqu'à lui, il peinait à se relever, empêtré avec son bouclier, roulant péniblement sur lui-même pour éviter le piétinement des chevaux. À peine culbuté, il s'était d'ailleurs fait faucher le sien de canasson. Deux chevaliers s'affrontaient férocement au-dessus de lui, risquant à tout moment de le fouler aux pieds de leur destrier. Sur le moment, je ne reconnus que le grand Arnois vermeil d'Anaro de Traval. Au moins, dans son ineptie, Cesarino avait eu le privilège de charger à côté du connétable. La vaillance du grand officier l'avait partiellement protégé. Skeggia et moi ont remis le Patrice sur pied dardard, et il était plus que temps. Soudain, un nouveau champion tomba sur le rable du connétable et lui balança une avoine féroce. Son écu était peint de chevaux courants et son haume était orné d'un grand cimier en forme d'hippogriffe. Duel au sommet. Claudas de Quimarque en personne cognait le baron de Traval. Les capitaines des deux camps s'écharpaient juste au-dessus de nos calottes. Quoiqu'il ne fût pas très ferme sur ses jambes, Cesarino tira l'épée et s'apprêta à seconder le connétable. Je lui retins la main. « Pas de ça, votre seigneurie. Toute la noblesse va rappliquer. On va se faire laminer sous la cavalcade. » Je n'avais pas plutôt lâché cette mise en garde qu'un des cavaliers se tournait vers nous. Je n'en crus pas mes yeux. Son bouclier, déjà rayé et cabossé, portait 4 épines sur fond blanc, et son casque se trouvait guirlandé des couleurs d'une dame et d'un cimier de ronces. Vaumacelle en personne. J'étais chargé de lui régler son compte, mais c'était lui qui m'avait trouvé. À vrai dire, je n'eus pas l'impression qu'il m'accordait grande importance. C'était plutôt Cesarino, son armure et sa rançon qui intéressaient le baroudeur. Cet imbécile de Patrice était d'ailleurs prêt à relever le gant. Mais Skeggia, avec son coup d'œil pour ce genre d'embrouille, estima que notre jeune héros n'était pas de taille et l'entraîna sans ménagement en arrière. L'épineux me lança aussitôt son cheval sur le buffet en visant les deux autres derrière moi. Ce destrier était un vrai monstre, au moins 10 fois mon poids, qui allait me faire valdinguer comme une pelote balancée contre un mur. Pas le temps de réfléchir. L'entraînement du phalangiste revint tout seul. Je fichais le talon de ma demi-lance en terre, calé sous le pied gauche, pour que le canasson court s'empaler sur le fer. Cette estocade ne porta qu'à moitié. La pointe ne fit qu'érafler le poitrail d'acier du caparaçon. Mais Vaumacel, scandalisé que j'ai tenté de planter son bourrin, abattit sa forte épée sur ma gamelle. Une prosternation éclair me sauva la terrine. Et aplati comme une bouse au niveau des pâturons, je saisis une ouverture.